France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Elles sont à l'affiche du film Promis, le ciel, de la réalisatrice Erige Seiri. Aïssa Maïga et Déborah Lobenane seront mes invitées à partir de 13h. Et on commence bien sûr par le plateau critique. Aujourd'hui au menu, l'actualité de l'opéra avec Werther de Jules Massenet, mise en scène par Ted Hoffman, dirigé par Raphaël Pichon. C'est à l'Opéra Comique de Paris. Et puis Siegfried de Richard Wagner, mise en scène par Callisto Bieto, dirigé par Pablo Heras Casado à l'Opéra Bastille. Vous écoutez les midis de culture, c'est bien beau tout ça. Et laissez-moi vous présenter mes camarades critiques du jour. Emmanuel Giuliani, critique et journaliste à La Croix, bonjour.
Bonjour Marie.
Emmanuel Dupuis, critique et journaliste pour le magazine Diapason, bonjour.
Bonjour.
Et j'accueille aussi Carole Boinet, directrice de la rédaction de notre partenaire Les Inrecuptibles. Vous nous dévoilerez tout à l'heure votre coup de cœur découverte musicale, bonjour.
Bonjour.
Voilà, on est au complet, bienvenue à tous. Le ténor Samoan Penepati qui interprète le jeune Werther, c'est sur la scène de l'Opéra Comique à Paris et c'est le premier objet de cette table ronde critique. Du premier roman de Goethe, Massenet a tiré ce drame lyrique joué pour la première fois sur cette même scène en 1893. L'histoire, elle est éternelle, hein. Werther, jeune homme plein d'idéal qui tombe amoureux de Charlotte et voit sa vie se briser quand il apprend qu'elle est promise à un autre. À la mise en scène ici, l'américain Ted Hoffman qui, rappelons-le, vient d'être nommé à la tête du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. La fosse. Raphaël Pichon dirige son orchestre Pygmalion. Quelques mots d'abord, Emmanuel Giuliani.
Alors, pour être tout à fait sincère, je vous avoue que cette production ne me laissera pas un souvenir impérissable. Ça ne va pas être l'un des spectacles bouleversants, qu'il s'agisse de production de Werther ou en général. Néanmoins, je ne regrette pas du tout d'être allée à l'Opéra Comique, notamment pour deux grands coups de cœur vocaux. Le rôle-titre, Penepati, qui vraiment, avec sa personnalité vocale, psychologique, physique, sa présence... Campin Werther, tout à fait particulier, mais extrêmement touchant, émouvant, notamment dans tout ce registre des demi-teintes dont on vient d'entendre quelques notes, et où moi, vraiment, il m'a énormément touchée. Et puis, le petit miracle de la soprano Julie Rosset, qui fait un rôle qu'on pourrait dire un grand rôle secondaire, Sophie, la jeune sœur de Charlotte, le grand amour de Werther, qui est un personnage qui, tiré vers la caricature, pourrait sembler un peu mièvre et un petit rôle d'oiseau chanteur qui n'a pas grand-chose à dire dans cette intrigue tragique, alors que ce n'est pas vrai du tout. Et là, grâce à Julie Rosset, qui est une merveille absolue, il y a des moments de grâce. Donc voilà.
Emmanuel Dupuis.
Oui, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, notamment sur Julie Rosset, qui est absolument craquante tout au long de l'opéra. Mais je trouvais que c'était un spectacle un peu froid, pas très émouvant. Et c'était un peu à l'image d'ailleurs de la direction musicale de Raphaël Pichon, qui est très scrupuleuse, très détaillée, mais à laquelle il manque l'essentiel, c'est-à-dire le grand souffle lyrique, l'émotion qu'on attend dans cette musique. Alors par contre, j'ai un petit désaccord avec Emmanuel, je ne suis pas tout à fait convaincu par le Werther de Penepati, on en reparlera. Je pense que c'est une question de personnalité, je ne suis pas convaincu qu'il soit vraiment un Werther.
On va discuter de ça évidemment, mais d'abord, on écoute un extrait que vous avez sélectionné, Emmanuel Giuliani.
Visage.
Voilà, et c'est ça le petit miracle, Emmanuel Giuliani.
Enfin, après, les timbres de voix, c'est des questions très subjectives, comme les couleurs, comme tout ce qui est d'ordre esthétique. Personnellement, ce timbre, depuis Anne-Catherine Gillet, qui avait été une admirable Sophie, c'était dans cette production totalement miraculeuse à l'Opéra de Paris en 2010 avec Jonas Kaufmann au plus haut de son rayonnement et Dieu sait qu'il en avait. Donc elle avait été une merveilleuse Sophie. Julie Roset, tout en étant très différente, ce naturel, cette fluidité et cette grâce vocale absolue. Et véritablement, c'est un soleil dans cette production qui, comme l'a dit Emmanuel, je suis d'accord, est assez froide. Je ne sais pas si elle est froide, elle est désincarnée. C'est-à-dire que Ted Hoffman, donc selon son esthétique habituelle, fait un grand espace vide, occupé par quelques accessoires, essentiellement des chaises, des tables, un orgue dont d'ailleurs on ne fera pas grand-chose, les personnages évoluent. Pour être un peu excessif, comme dans une version de concert qu'aurait, au lieu d'être en devant de scène, ils ont toute la scène pour eux et ils ont quelques accessoires. Mais à part ça, on a l'impression qu'ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que le jeu d'acteur, alors on pourrait dire, il est pas outré, il a une espèce de dépure qui peut séduire. Moi, personnellement, ça m'a un peu laissé sur ma faim et j'attends autre chose d'une œuvre qui a quand même un argument pré-romantique absolument bouleversant. Et dès le début, dès la rencontre entre Werther et Charlotte, on doit sentir cet amour impossible qui va finir tragiquement, que l'on ait lu ou pas les souffrances du jeune Werther de Goethe. Et ça, on ne les sentira vraiment jamais, sinon par l'impulsion, donc à par moment des chanteurs, et notamment, moi je trouve, de Pénépathie, dès qu'il est dans le registre de la mélancolie, du rêve, dès qu'il se parle à lui-même. Là, je trouve qu'il est extrêmement touchant avec un français superbe, globalement. Il est un petit peu plus à la peine dans les passages très vaillants. Mmh. Et je me suis dit, in petto, il ne faudrait pas qu'il subisse ce cas subi de son plein gré et en dépit de son plein gré, je ne sais plus comment disait le coureur cycliste,
ce qu'a subi à l'insu de son plein gré,
quelqu'un comme Rolando Villazone, à savoir qu'on lui fasse faire trop vite des rôles trop lourds et qu'il abîme la voix d'or qu'il a. Et là, je me suis dit, dans les moments très vaillants de Werther, attention, il ne faut pas que ça craque. Donc voilà, c'est un petit message subliminal à son agent. Quant à la direction de Raphaël Pichon, je suis de votre avis, Emmanuel. C'est beau dans le détail, quoique par moment il y a des percussions un peu trop affirmées pour dire Wagner n'est pas loin, j'en sais rien. Il y a un premier violon qui n'est pas toujours tip-top. En revanche, des harpes merveilleuses, des flûtes merveilleuses, mais tout ça est très beau dans le détail. Mais c'est vrai que dans cette musique, on attend de l'abandon, du lâcher-prise, des grands élans.
Ouais, le souffle dont
parlait
Emmanuel.
Voilà, le souffle de soi-même avoir du mal à le reprendre. Et là, on reste vraiment bien dans les cordes.
Emmanuel Dupuis.
Oui, sur la direction musicale, nous sommes d'accord. Et au risque de paraître un vieux ringard, je ne suis pas totalement convaincu par l'intérêt de la présence des instruments d'époque dans cette œuvre-là. Et je pense qu'un orchestre moderne aurait peut-être été davantage capable d'apporter ce grand souffle romantique qui justement nous a manqué. Alors concernant Pénépathie, puisque c'est un petit peu le point de désaccord que nous avons aujourd'hui avec Emmanuel, moi qui ne suis plus très jeune, il faut l'avouer, le premier Werther que j'ai vu dans cette même salle, c'était Alfredo Kraus. Alors Alfredo Kraus était un immense chanteur espagnol. Il entrait en scène, il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche, il était Werther. Parce qu'il avait une classe, il avait une élégance, il avait une noblesse qu'on retrouvait dans son chant qui était totalement naturel. Et c'était exactement la même chose d'ailleurs, effectivement, avec Jonas Kaufmann. il y a une quinzaine d'années à l'Opéra Bastille. C'était, il y avait quelque chose de, voilà, d'évidence. Et cette évidence, on ne la retrouve pas avec Penépiaty, qui lui a une nature plus généreuse. C'est un artiste qui transpire la joie, très souriant. On l'imagine mal en poète neurasthénique. Alors en plus, le soir de la première, bon, effectivement, il avait quelques, pendant les premiers actes, il avait quelques problèmes dans les aigus. Ça s'est arrangé par la suite. Il n'y a que au moment de sa mort où là je l'ai trouvé quand même vraiment émouvant, mais ça, bon, rater la mort de Werther, c'est quand même impossible, hein. Je veux dire, c'est une partition à ce moment-là qui est tellement touchante que c'était vraiment très très émouvant, sauf que la mare de sang dans laquelle il expire était pas forcément nécessaire. Ça donne un effet gore qui n'était pas vraiment utile. Sur le reste du plateau, effectivement, je rejoins Emmanuel sur Julie Rosset. Et il faut citer aussi la Charlotte d'Adèle Charvet qui, elle, est très touchante.
L'opéra Werther de Jules Massenet, mise en scène par Ted Hoffmann, dirigé par Raphaël Pichon, c'est jusqu'au 29 janvier à l'Opéra Comique. Et c'est également disponible sur la plateforme arte.tv. Et de Troyes, Callisto Bieto vient de passer la troisième étape du ring sur la scène de l'Opéra National de Paris à Bastille. Après L'Or du Rhin, dont nous avions parlé ici il y a un an, La Valkyrie en novembre dernier, il s'est attaqué à la mise en scène de Siegfried. Et le Catalan a choisi d'abandonner l'univers métallique, militaire, high-tech des premiers volets ici. Il nous entraîne dans une forêt mystérieuse pour nous conter l'épopée initiatique du jeune héros wagnérien, héros incarné par le ténor Andreas Schager, quand la soprane Tamara Wilson et Brunhilde, l'orchestre de l'Opéra National de Paris est dirigé ici par Pablo Heras Casado. Quelques mots d'abord, Emmanuel Dupuis.
Alors moi, j'avais assez apprécié la mise en scène de La Valkyrie par rapport à celle de L'Or du Rhin qui m'avait beaucoup déçu. Là, à nouveau, je suis resté sur ma faim parce que c'est une mise en scène que j'ai trouvée brouillonne, dont on ne comprend pas toujours les intentions. La direction musicale m'a semblé, alors c'était le soir de la première, donc peut-être que ça va se rôder au cours des autres représentations. La direction musicale m'a semblé assez prudente, à part au troisième acte où effectivement là ça trouve son rythme de croisière. Le point fort de la production, c'est un plateau vocal de très haut vol, avec notamment Andreas Schager, qu'on vient d'entendre très brièvement dans le rôle titre, qui est absolument époustouflant. C'est un vrai Elden Tenor, c'est-à-dire un ténor héroïque comme on n'en a pas entendu depuis des lustres.
Emmanuel Giuliani.
Drôle, on va faire une espèce de symétrie. Je suis tout à fait d'accord pour la mise en scène. J'ai du mal à analyser quoi que ce soit, tant mon humeur domine le côté intellectuel de l'analyse.
Quelle humeur
mauvaise, tellement je trouve que c'est laid, c'est confus, c'est...
C'est rare de vous entendre dire ça. Hein.
C'est à la limite. Moi, je trouve que c'est dégradant pour les artistes, notamment pour les artistes féminines. Et je trouve que là, il y a vraiment un problème de... Il faut faire quelque chose. On ne peut pas costumer des femmes de cette façon.
C'est-à-dire ?
Sur un plateau, elles ont une silhouette imposante pour eux, et on les habille comme si on voulait montrer... Justement, ce qui est laid dans la... C'est pas possible. Je veux dire, là, il faut faire quelque chose. Je me calme.
C'est entendu.
Voilà. La direction musicale, il y a des moments, moi j'ai trouvé qu'il y avait des bouffées par moments, notamment quand Mime, donc le nain, le Nibelung qui a recueilli Siegfried, veut lui expliquer qu'elle a peur, parce que Siegfried, il n'a jamais connu la peur. Et Mime explique ce qu'elle a peur, et l'orchestre a à ce moment-là un bouillonnement, et je me suis dit, ça y est, Pablo Heras Casado, ça y est, il prend le truc, mais ça retombe tout de suite après. Voilà, c'est ça, c'est comme un soufflet qui retombe. Et vocalement, c'est vrai que c'est bien. Moi, j'aurais des réserves sur Andreas Schager, qui en effet a de la vaillance et des décibels, mais alors côté ligne vocale et justesse. Alors, c'est impossible comme rôle,
On débat juste après, mais d'abord, on écoute un morceau, un extrait que vous avez choisi, Emmanuel Dupuis.
ihres heiligen Pflichtfreuen.
Schwarze, höllische Beine, ist das Fahnig hart und fest. Ei, was ist das für mies getan? Ich mach den Stift, wenn's du uns verliert. Da hast du die Stück, schändlicher Stück. Wenn dich am Schäden ist, ist der Magen. Wollt mich dann prallen, denke noch prallen. Schon was von Riesen und rüstigen Kämpfen, von kühlen Taten und tüchtiger Wehr, mit Waffen mehr Schmieden, Schwert geschaffen, Rüttern im Fuß als Könnte was weckt, neben zur Hand und der Masse gehämmert, mit einem Griff, sie greifen den Kuban.
Siegfried sur l'opéra, sur la scène de l'opéra Paris-Bastille. Emmanuel Dupuis, c'est à vous.
Bon, pour revenir sur Andras Chagger, Siegfried, c'est un rôle qui est réputé inchantable, comme un peu comme Tristan d'ailleurs. Et lui, Andras Chagger, bon, il chante ça, si j'ose dire, les doigts dans le nez, c'est-à-dire avec beaucoup de facilité. Alors c'est vrai que il y a quelques petits écarts de justesse, on les a entendus là dans l'extrait d'ailleurs. Mais malgré tout, moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel. Je trouve quand même qu'il préserve le galbe de ses phrasés, notamment à l'acte 2 qui est beaucoup plus lyrique. Et honnêtement, ça fait quand même moi qui vais à l'opéra depuis quand même plusieurs décennies, je n'avais jamais entendu un Siegfried aussi à l'aise vocalement et qui montre pas vraiment de signes de fatigue alors que le rôle est absolument écrasant.
Emmanuel Giuliani.
Oui, c'est vrai. Et puis il y va à fond. Je veux dire, il y a une espèce de générosité, de prendre ce rôle vraiment entre les mains et dans la voix qui est impressionnante. Après, musicalement, on pourrait toujours rêver de mieux. Alors c'est la question quand un opéra est impossible et le Ring n'est vraiment très difficile à monter à tout niveau. Est-ce nécessaire de faire régulièrement des rings? C'est une musique sublime, mais si on n'a pas vraiment les moyens de le faire et qu'en plus on confie ça à un metteur en scène qui le massacre, c'est un problème. Le reste du plateau, il y a vraiment de belles choses, oui. En effet, notamment le mime de Gerhard Siegel qui confirme l'intelligence du personnage. C'est un personnage odieux, mais à la fois qui, grâce à lui, l'histoire a pu avancer, puisqu'il a recueilli cet enfant, en espérant évidemment qu'il va, par sa force, conquérir l'or. Vous avez parlé d'un dragon que le dragon garde dans sa caverne. Donc, mais il montre toutes les complexités du personnage, toutes ses subtilités, et ça, c'est vraiment tout à fait réussi. De même que l'Alberich de Brian Mulligan, et donc c'est les frères ennemis, Mime et Alberich, qui lui aussi aimerait beaucoup reconquérir l'or par qu'il a perdu au profit de Wotan, le dieu des dieux. Tout ça est très compliqué, hein, à résumer rapidement. Et là aussi, il y a une belle caractérisation. Si c'était porté par un orchestre plus ardent, plus lyrique, et surtout qui ait des climats, parce que l'orchestre de Siegfried, il est absolument extraordinaire. Il commence dans des zones très sombres, et puis peu à peu, il s'éclaire. Il devient très élégiaque, et puis par moments aussi très sombre dans l'acte 2, quand on est avec il y a un oiseau et un dragon. Il y a les deux extrêmes de la création qui sont à cet acte et Siegfried est entre les deux. Et puis le grand duo d'amour à la fin. Et il y aurait tellement à dire avec cet orchestre sublime, surtout que l'orchestre de l'Opéra de Paris joue tout à fait bien. Mais quel dommage qu'il n'y ait pas un chef qui
mette le feu, quoi, tout
Emmanuel,
simplement. Quoi.
Emmanuel Dupuis.
Alors après, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous comme moi, nous étions présents le soir de
absolument.
La première, et il faudrait réentendre au bout de quelques représentations comment cette direction musicale évolue. Alors, bon, parlons un petit peu du spectacle.
Voilà, la mise en scène.
La mise en scène. Alors au début, quand le rideau se lève, on est quand même assez fasciné par ce qu'on voit, c'est-à-dire une forêt plus vraie que nature, avec des arbres qui poussent la tête en bas ou à l'horizontale. Donc la nature s'est déréglée en quelque sorte, nous dit Calixto Bellito. Donc il continue dans la veine post-apocalyptique qu'il avait inaugurée dans l'Or du Rhin et la Valkyrie. Le problème de ce décor, c'est qu'on va le voir quasi en permanence pendant trois longs actes. Donc il y a vraiment une impression de monotonie visuelle qui est assez ennuyeuse, pour tout dire. Et puis surtout, dans ce décor, les personnages gigotent beaucoup, mais on ne comprend pas toujours pourquoi, on ne comprend pas toujours le sens de leurs actions. Pendant la moitié de l'acte 1, Siegfried joue avec une portière de voiture désossée, mais alors là, pourquoi mystère. Au lieu de reforger Notung, l'épée magique, il va déchirer une robe en petits morceaux.
La robe de sa mère.
Alors on suppose que c'est la robe
de sa mère.
Elle lui
ressemble furieusement, en
voilà.
Tous les cas, oui. C'est une lecture psychanalytique.
Voilà, il déchire aussi les manches de sa chemise. Bon, bref.
Et il va chercher son épée sous l'herbe artificielle qui l'attend toute cuite, quoi.
Toute cuite, oui. Mais il faut dire que l'épée n'avait pas été cassée vraiment dans la Valkyrie. Donc bon, tout ça est assez incohérent. À la fin, quand il est censé fendre l'armure de Brunhilde avec son épée, il s'acharne à casser un bloc de glace. Alors là, on finit par comprendre pourquoi. C'est que Brunhilde, normalement, dans l'opéra, est entourée par une barrière de feu. Là, il n'y a pas de feu, mais Brunhilde est congelée. Donc Siegfried va devoir redoubler d'efforts pour réchauffer les ardeurs de Brunhilde, et notamment en déchirant un voile en plastique translucide qui est censé représenter la glace, mais qui symbolise probablement aussi l'hymen de Brunhilde. Bon, tout ça est assez laborieux.
On peut se dire que c'est le rôle d'un metteur en scène contemporain d'aller bousculer l'imagerie du ring.
Oui, d'accord, mais enfin, il faut que ça ait un sens. Que l'on saisisse clairement. Alors là, c'est pas le cas. On comprend pas. Franchement, il y a des choses. Moi, j'ai pas compris quoi. Il faut quand même qu'il y ait un souci esthétique n'est pas du tout présent. Et voilà. Là, effectivement, on reste sur sa fin quoi. C'est
Emmanuel Giuliani.
Oui. C'est en effet, on peut, et on a vu des visions qui bousculent, qui transposent, mais si à chaque image, on se dit, bon, elle est affreuse, mais allons plus loin, qu'est-ce que ça veut dire, et en quoi elle se relie à la précédente et elle m'annonce la suivante. Mmh. Et j'avoue, sans doute parce que j'ai pas compris, on n'y arrive presque jamais. Alors on se dit, oui, c'est vrai, plutôt que le feu, la glace, d'accord. Donc, il découvre que Brunhilde n'est pas un homme, il ne l'a pas encore vu, elle est encore 3 mètres au-dessus de lui, il casse son bloc de glace, il dit, ce n'est pas un homme.
Oui.
Quelqu'un qui ne connaît pas... Réplique qui fait toujours rire, d'ailleurs, en général, quand, justement, c'est littéral et qu'il rompt l'armure de Brunhilde. Là, personne ne rit, mais allez comprendre. Oui, c'est sûr qu'un bloc de glace, ce n'est pas un homme.
Voilà.
D'accord. La portière de voiture, dernier reste de la civilisation, mais il joue avec, puis après, il s'en désintéresse complètement. De la même manière, il a trouvé le ring qui est plutôt une sorte de couronne ou de gros collier de chien, mais il l'abandonne, il le garde, il s'en fiche. Et Brunhilde aussi, alors que quand même, c'est le cœur du cœur de cette histoire. À cause de problèmes de distribution, Wotan n'est jamais le même. Maintenant, il revient dans Siegfried, c'est la dernière fois qu'on le voit, on va beaucoup parler de lui encore, mais qu'on le voit sous la forme d'un voyageur, ce thème tellement du romantisme et du post-romantisme allemand. Là, c'est plutôt un milicien qui a un beau manteau, mais quand il enlève son manteau, il redevient en costume de milicien avec la gestuelle brutale à l'avenant. Aucun lien avec ce qu'il a été précédemment. Donc vraiment, on n'y comprend rien.
Non, on ne comprend pas grand-chose.
On va s'arrêter là. Siegfried de Richard Wagner, mise en scène par Callisto Bieto, dirigé par Pablo Heras Casado. C'est jusqu'au 31 janvier à l'Opéra National de Paris. Et d'ailleurs, rendez-vous en novembre prochain, puisque le dernier volet de la tétralogie, c'est Le Crépuscule des Dieux. Et c'est l'heure de retrouver Carole Boinet, directrice de la rédaction des Inrocuptibles, pour le coup de cœur musical. Alors, qui aime-t-on bien aujourd'hui ?
Eh ben, j'ai très envie de vous parler de Sam Cooley, qui quelque part propose elle aussi un art total, hein, danse, musique, costume, et qui sort son nouvel album Jawbreaker, le casse-mâchoire. Alors effectivement, la mâchoire se disloque un peu, hein, l'écoute de Sam Cooley qui nous donne une bonne claque, mais dansante, hein, attention la claque, dans une veine post-disco qui rappelle Blondie en plus technoïde, ça cavale, et on l'entendrait presque détruire une boule à facettes à coups de talons hauts sur un dance floor survitaminé. ça, c'était London Town, son single sur lequel elle se compare à de l'ecstasy. Alors, qui est Sam Cooley? J'ai envie de dire un personnage fantasque et fantastique à la trajectoire pas banale. Australienne, elle quitte le village de surfeur dans lequel elle a grandi pour devenir danseuse à Hong Kong. Elle a 18 ans et une envie mordante de performer sur scène. Sam embarque ensuite sur des bateaux de croisière où elle devient l'assistante d'un magicien, je n'invente rien, avant d'atterrir à Paris au cabaret Le Paradis Latin. Seins nus, perruques et paillettes, Sam performe une féminité XXL, aussi fantasmée qu'outrancière, résolument camp. Puisque le genre n'est que construction socioculturelle, Sam s'auto-invente. À Patrick Thévenin dans Les Inrocks, elle dit « J'adore l'hyperféminité, l'exagération, les femmes larger than life comme Wonder Woman, Jessica Rabbit ou Marlène Dietrich. » Mais aussi des figures comme Lee Bowery.
Et comment elle arrive dans la musique alors?
Alors à Paris, sa route croise celle de Marlon Manier du groupe La Femme qui devient son producteur. Ensemble, ils bâtissent son premier album, le galvanisant Blonde Venus, sorti en 2023. La pop s'y fait hyper et techno et les clips suivent la même veine. Sam Cooley semble sortir d'un rêve ou d'un dessin animé, en tout cas d'une projection mentale, quelque part entre David Lynch et Madonna. Son nouvel album Jawbreaker est une joyeuse et furieuse cavalcade portée par des tubes. Sur By My Side, elle accueille Marlon Manier en featuring, presque une parodie de duo féminin-masculin comme l'industrie musicale en produisait dans les années 70. Car de l'humour, il y en a beaucoup chez elle. De l'humour qui pique et amène du second degré dans son projet, sans jamais lui enlever sa qualité musicale ni sa sincérité. Aux Un Rock toujours, elle affirme « Je pense que je fais peur aux machos parce que je ne m'excuse jamais d'être moi-même. C'est exactement ce dont la France a besoin, un peu de piment. On ne peut qu'acquiescer. »
Merci beaucoup Carole Boinet. Quel est le dossier à la une de notre partenaire, Les Un Rock?
À la une, Sébastien Tellier qui revient avec un album Kiss the Beast et qu'on a photographié avec un joli petit agneau dans les bras et qui raconte vraiment, il se lâche dans l'interview. Drogue, alcool, musique, création, chaos et renaissance, j'ai envie de dire.
Eh bien, c'est très bien parce que nous aussi, on va le recevoir. On le reçoit le vendredi prochain, Sébastien Tellier. Merci beaucoup, Carole Boinet. Merci, Emmanuel Giuliani. Merci, Emmanuel Dupuis, d'être venu dans les Midis de Culture. Vous qui nous écoutez, à vous de vous faire une idée. Vous retrouverez évidemment les références de ces trois objets musicaux dont nous vous avons parlé aujourd'hui sur la page des Midis de Culture. Dans un instant, le journal de Thomas Cluzel.
Vous êtes bien sur France Culture.
Entre Tombouctou et Bamako, s'étend une terre sans pareil. Bercée par le grondement des tam-tams et le chant des griots, Ségou est le puissant royaume des Bambara, un peuple qu'on dit invincible.
Une bouffée d'air frais lui monta au visage comme un appel. Et elle se rappela l'histoire que lui contait Siga quand il vivait à Tombouctou.
La série-fiction Ségou de Maryse Condé, réalisation Tidiane Tiang, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Chaque vendredi dans le Book Club, une personnalité nous fait découvrir sa bibliothèque.
Marie Richeux.
Aujourd'hui, c'est la musicienne et productrice Yael Naïm qui déballe pour nous ses rayonnages littéraires. Au programme, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Un lieu à soi de Virginia Woolf ou encore Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir.
Le Book Club, du lundi au vendredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Bientôt midi et demi, vous êtes sur France Culture. À suivre à 12h50, le Point Culture de Marie Sorbier. À 13h, je recevrai les comédiennes Aïssa Maïga et Déborah Lobé-Nané.